Bonjour, bonsoir et bienvenue dans L'œuvre noire, le podcast de métallurgie qui décrypte pour vous les références artistiques et culturelles du métal, mais pas que, aujourd'hui. Je suis Scalmax et on va passer comme d'habitude une heure ensemble pour parler d'un sujet autour de nos musiques préférées. On est parti pour une nouvelle saison de ce podcast que j'ai plaisir à vous présenter. La dernière fois, on s'était quitté sur un épisode hors série, parce que j'avais envie de tester autre chose, et visiblement ça vous avait pas mal plu. C'était un épisode que j'avais intitulé « Livres à écouter, disques à lire », où je recommandais trois bouquins divers et variés, et puis surtout des disques que j'avais écoutés avec, et qui, à mon avis, complétaient bien l'ambiance du lecture, et visiblement ça a pas mal plu, donc j'ai en plus vraiment apprécié le faire. J'ai envie, moi, de parler de ce que je lis, donc je le ferai, je le referai avec plaisir. J'ai déjà une idée au moins de bouquins à vous recommander là-dessus, donc ça se fera dans le cours de l'année, à mon avis, un autre épisode du même genre. Aujourd'hui, on est parti sur un tout autre sujet que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On va parler aujourd'hui de liens entre le métal, le punk et le skate, puisque ce sont des choses qui sont très liées. Alors aujourd'hui, on va parler un peu moins de métal que d'habitude. J'ai encore très peu parlé de punk dans cette émission, alors que c'est un genre que j'écoute pas mal, mine de rien, et peut-être même de plus en plus, donc ça tombe bien. Donc on parlera un petit peu de métal, mine de rien, mais aussi pas mal de punk. On va surtout écouter du punk, pour une fois. Et on va voir comment le skate a pu influencer la musique que l'on écoute, que vous écoutez, mais aussi dans le sens inverse, et c'est peut-être encore plus vrai, comment est-ce que notre musique a pu influer ou donner une couleur peut-être à la culture, au monde du skate de manière générale. Alors pourquoi ce sujet? Encore une fois, c'est mes obsessions personnelles. Moi, je me suis mis au skate il y a 2 ans maintenant, ça fait 2 ans que je m'y mets ça fait 2 ans que je m'y suis mis de manière vraiment sérieuse et assidue. Alors j'ai presque même pas envie de dire de manière sérieuse, parce que c'est pas comme si c'était une astreinte ou quelque chose que je m'étais imposé de faire de manière régulière. Non, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris, qui m'a mordu il y a 2 ans, le même genre de virus que vous pouvez avoir pour la musique, pour un groupe, pour un genre. Ça m'a vraiment fait le même effet, et ça n'a pas faibli depuis que je m'y suis mis il y a 2 ans. Donc voilà, ce qui fait que j'avais envie d'en parler. Donc je parle vraiment avec simplement 2 ans de recul sur cette culture, sur cette discipline de manière générale. Donc si jamais il y a des skateurs acharnés, des historiens du skate qui écoutent et qui s'offusqueraient de quelque chose, évidemment n'hésitez pas à corriger ce que je dis. Bien sûr, j'ai fait des recherches pour cet épisode comme d'habitude, mais il y a peut-être des imprécisions, il y a peut-être des choses à revoir, bien entendu. Donc je prends les critiques sans aucun problème, et surtout s'il y a des commentaires, des ajouts constructifs à apporter, faites-le, bien entendu, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc on va partir sur peut-être un petit point sur ce qui unit le skate au punk et au metal. Si on fait un petit tour d'horizon, un petit regard rapide sur quel lien on pourrait faire potentiellement entre les deux, on pourrait commencer par quelques petites touches, quelques petites références qui existent dans un monde comme dans l'autre. On parle facilement de punk à roulettes quand on parle de groupes du type Sum 41, Green Day, etc. On voit aussi qu'il y a un certain James Hetfield dans les années 80 qui se cassait régulièrement des trucs parce qu'il avait tendance à aller skater entre 2 concerts, à tel point qu'il a eu même des interdictions de le faire au bout d'un moment, puisque ça posait trop de soucis pour Metallica. On a des groupes, bien entendu, comme les Ramones ou les Dead Kennedys, par exemple, qui ont leur planche de skate à leur effigie, mais c'est bien sûr pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres. Et pour un dernier petit exemple pour la route, avant d'entamer un petit peu les choses, le Hellfest, notamment, a accueilli un skatepark sur son site, sur au moins une édition. Je ne saurais pas dire s'il y en a eu s'il y a eu plus d'une édition que ça s'est produit, mais mine de rien, je crois pas que le Hellfest ait accueilli un match de foot ou du badminton sur son. Quoique, ils ont accueilli du badminton puisqu'il y a déjà eu un match de badminton sur la Warzone, donc mauvais exemple. Mais ils n'ont pas mis, par exemple, un mur d'escalade sur leur site. Donc, on va peut-être essayer de comprendre pourquoi les punks, les fans de métal, ont cette tendance à monter sur une planche. Et on va commencer peut-être tout de suite par disons, la première partie de l'émission, plutôt concentrée sur les origines du skate, disons une sorte de chronologie de la chose, parce que c'est intéressant à mon avis de la mettre en parallèle avec l'évolution de nos musiques, du punk, du metal, déjà parce que ça arrive à peu près au même moment. Il y a des moments où les deux vont avoir tendance à se croiser, ou alors en tant que phénomène, disons culturel, pop culture de manière générale. Il y a évidemment des choses qui sont. Il y a des phénomènes qui vont avoir tendance à se reproduire, et on va voir lesquels, en fait, plus en détail. Donc du coup, le skate, ça commence où et quand? C'est plutôt dans les années 50, en réalité. Disons que là, sur cette première période qu'on va appeler les débuts, elle va s'étaler à peu près des années 50 aux années 70. Ça va démarrer aux États-Unis avec une inspiration du surf, qui est déjà installé ou qui émerge bien, en tout cas dans les années 50. Donc on est sur la côte ouest des États-Unis, et le skate va émerger d'abord de manière assez rudimentaire, avec des planches au départ qui sont rectangulaires, en bois. Alors c'est difficile de dater de manière très précise qui a créé d'abord le premier skateboard. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a eu en tout cas des tentatives avec des patins roulettes qui ont été mises, ou des trucks, donc des essieux de patins roulettes qui ont été mis sur une planche de bois, et puis on en a fait une sorte de simili-surf pour la route. Et donc c'est potentiellement comme ça qu'on a eu ces espèces de prototypes avec des planches rectangulaires sur lesquelles on peut glisser. Au fil du temps, bien sûr, ça a évolué entre les années 50 et les années 70. Voilà, on a eu des évolutions techniques qui ont permis de faire quelque chose de plus facile à diriger, de plus agréable aussi peut-être à rouler. Mais mine de rien, au début, c'était considéré comme un jouet, tout simplement. C'est pas devenu une discipline ou quelque chose de respecter, ou quelque chose de majeur en tout cas. Ça n'est pas devenu tout de suite, loin de là. C'était un jouet, mais donc plutôt destiné aux enfants, à un public jeune. Mais mine de rien, au fil du temps, avec à la fois les innovations techniques, donc la planche qui va se transformer, qui va devenir plus fine, plus légère, qui va permettre de faire plus de choses avec et d'être plus agile, il va y avoir des disciplines qui vont se créer. Parce qu'en fait, il faut pas envisager le skate comme quelque chose de monolithique et comme une activité unique, finalement. On peut pratiquer plusieurs disciplines avec une planche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il y a eu d'abord du slalom qui s'est créé, également du downhill. Donc le downhill, c'est quoi? C'est descendre des pentes, et particulièrement quand on sait que le skate, évidemment, né en Californie. Plus spécialement, on dit que sa ville d'origine, c'est San Francisco. San Francisco, c'est une ville qui est très pentue, donc évidemment, c'était parfait pour faire du downhill comme ça. Et dernière chose qui a tendance à émerger également dans les années 70, c'est le freestyle. Le freestyle qui est, disons, une sorte de démonstration d'agilité de tout ce qu'on peut faire avec une planche, mais sans nécessairement rouler avec. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été popularisé particulièrement par, disons qu'un des grands noms du freestyle, ça a été Rodney Mullen, dont on va parler plus tard. Pour vous donner un exemple un peu visuel du freestyle, c'est quoi? C'est prendre par exemple, prendre votre planche à la verticale, monter sur les roues, sur les trucks, et tenir en équilibre dessus, éventuellement arriver à faire un saut pour se déplacer, voilà, comme une sorte de comme si vous aviez un bâton sauteur. Voilà, ça c'est un exemple de figure freestyle, mais il y en a d'autres bien sûr. Et donc c'est une discipline qui a peut-être commencé un peu à détourner, puisqu'on va voir que le skate va avoir tendance à être détourné, ou en tout cas on va augmenter son usage au fil du temps. On va voir comment. Et donc on va avoir ces différentes disciplines qui se créent au fur et à mesure, quoi. Les années 70, ça va être un vrai tournant pour plusieurs raisons, particulièrement en le lieu qui va changer. Au début, ben, on skate dans la rue, mais disons voilà, les enfants skatent dans leur quartier, sur la route, sur du plat, etc. Mais ce qui va changer à partir de 1976, c'est la création d'un premier skatepark qui se fait, donc un lieu où on va pouvoir pratiquer. Et dans ce cas-là, où est-ce qu'on va skater? On va skater dans différentes, là où il y a du relief finalement, là où il y a de la courbe, parce que pour le moment, on s'est simplement roulé, on s'est tourné, on sait peut-être faire quelques petites figures très mineures, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait faire. Et pour ça, on a différentes possibilités. On a le bol, donc qui est en fait une sorte de cuvette. C'est inspiré d'une piscine, une piscine vide. Et encore aujourd'hui, et dans les années 70-80, ça s'est beaucoup fait de skater dans des piscines vides, parce que ça vous donne de la vitesse. Il y a aussi un gros côté défi. Personnellement, moi, je vais pas dans un. J'ai 2 ans de skate dans les pattes, je vais pas dans n'importe quel bol. Et je fais des choses très, très, très accessibles dedans, quoi. C'est quand même quelque chose qui est hyper engagé, comme on dit, il faut pas avoir peur de bien s'éclater quand on va dans un bol, et qu'on commence à tenter des trucs dedans. Donc des bols, ça commence à se faire, des rampes, des endroits où il y a de la courbe. Globalement, c'est ça qu'on va retrouver dans les premiers skateparks. Et donc on a déjà un petit curseur d'adrénaline qui va monter là avec ces histoires de skatepark, de hauteur, de rampe. Si on devait dresser un parallèle avec le métal ou le rock de manière générale, est-ce que ce serait peut-être l'électrification, commencer à passer à l'amplification, voilà, c'est un parallèle que je tente comme ça. Mais à mon avis, en tout cas, il y aura d'autres parallèles qui seront peut-être plus évidents, mais disons que cette arrivée de la courbe et de rampes immenses, ça va, disons, décupler les possibilités, et rendre les choses plus intenses, en tout cas pour les skateurs de l'époque. Et deuxième chose, qui là, pour le coup, va être vraiment peut-être l'événement le plus important du skate, c'est ce qui arrive en 1978, grâce à un mec qui s'appelle Alan Gelfand, qui est surnommé Ollie. Et donc, si vous connaissez un tout petit peu le skate, ou si vous en avez déjà entendu parler, vous avez entendu parler du Ollie, qui est une figure qui a transformé la discipline, tout simplement. Qu'est-ce qu'il arrive à faire? En fait, il arrive à faire décoller sa planche au-dessus de la rampe. Donc, il est dans une, vous savez, les rampes, donc dans un U. Et il réussit à se décoller du sol. Et donc ça, c'est ce qui va et à se décoller du sol sans se tenir avec les mains, puisque déjà à l'époque on avait tenté, essayé de le faire, de décoller, mais on avait besoin de sa main pour se tenir éventuellement au bord de la rampe une fois qu'on est arrivé en haut, et de maintenir son skate avec l'autre main, et de repartir ensuite. Voilà. Mais ce que réussit à faire Alan Gelfand, donc Oli, de son surnom, il arrive à décoller du sol sans les mains. Et donc ça va absolument tout changer pour la discipline. Et il a donné du coup son nom à cette figure qui est donc le Oli, donc qui consiste tout simplement, et je dis tout simplement avec toutes les précautions du monde, puisque un Oli, ça vous prend un certain nombre de mois, un certain nombre d'essais avant d'y arriver. Donc c'est et j'en sais quelque chose, croyez-moi. C'est être capable avec sa planche aujourd'hui sur du plat, c'est tout à fait possible. Ça peut être en roulant. En tout cas, il vaut mieux commencer sur du plat, je pense, pour l'apprendre. réussir à taper l'arrière de son skate et remonter son pied avant vraiment dans la seconde qui suit, tout en levant le pied arrière pour réussir à décoller, à faire un saut, à faire une sorte d'arc de cercle au-dessus du sol pour finalement décoller. Au début, vous allez décoller de 2 cm, 3 cm, et puis après, vous arriverez à sauter des trottoirs, etc. Voilà, donc c'est ce qui se passe avec dans cette fin des années 70. On a cette figure capitale qui arrive pour la discipline et qui va tout changer ensuite dans les années. Éventuellement, encore une fois, si on fait une espèce de parallèle avec le métal, si la rampe, etc., était le. Si la rampe, la courbe, donnait de la puissance, de la vitesse, etc. À la discipline, peut-être que le holi, si on devait faire un parallèle avec le métal, ce serait finalement le triton maléfique de Black Sabbath, quoi. C'est ce qui a tout lancé ensuite derrière, ce qui a lancé quantité d'autres figures, ce qui a lancé des disciplines ensuite dont on va parler, donc comme des courants ou des sous-genres du skate, et donc voilà, je me permets de faire ce parallèle avec Black Sabbath. Je sais que ça plaira à certains, évidemment. Voilà, le triton maléfique, le riff, le riff qui fait peur, voilà, c'est ça. C'est un peu le holy en cette fin des années, en cette fin des années 70. Donc, on passe à la décennie suivante, avec les années 80 et notamment René Mullen, dont on a parlé un peu plus tôt, qui a commencé dans le freestyle. Et lui, il finalise le holy qui était créé par Allan Gelfand, donc quelques années plus tôt, puisqu'il réussit à le faire lui sur du plat. Parce qu'avant, Gelfand le faisait en étant lancé en haut d'une courbe, donc il a de l'impulsion, il a la hauteur aussi, et puis c'est plus facile peut-être de décoller en ayant toute cette vitesse, toute cette impulsion. René Mullen va réussir à le faire sur du plat et donc va ensuite va perfectionner, va parachever finalement la figure grâce à ça. Toujours début des années 80, on a un autre événement très important en plus de la finalisation du holy, on a l'arrivée de Thrasher Magazine. Donc Thrasher, c'est ça s'écrit comme le thrash metal, même si ça n'a rien à voir. En tout cas, le magazine ne s'appelle pas comme ça par rapport au thrash metal, mais il y a évidemment un point commun. Thrash, c'est quoi? C'est frapper, tabasser violemment, etc. Et donc, il y a cette idée déjà de radicalité, puisque le slogan du magazine, c'est Skate and Destroy. Donc, ce qui était et tout détruire, tout péter, donc un nom sans concession, un esprit radical qui suit Thrasher Magazine jusqu'à aujourd'hui, qui fait aussi sans doute qu'il est devenu, qu'il était et qu'il est toujours une référence en termes de presse sur cette discipline. Et donc ce magazine va avoir une importance réelle, évidemment, pour documenter ce qui se passe dans la rue, dans les skateparks, dans les compétitions, etc. Puisqu'on a parlé de ce fameux slogan Skate and Destroy, on va peut-être faire une petite pause musique. Puisqu'on parlait de radicalité, etc., on va parler de punk, évidemment. On va écouter du punk avec un titre qui s'appelle Skate and Destroy de The Faction, donc qui est un groupe américain qui sort ce titre en 1983. Donc on peut imaginer qu'ils ont été inspirés par le magazine lui-même. De manière. Alors il y a peut-être une petite coïncidence aussi. En 1983, on a un groupe qui s'appelle Metallica qui vient de la Californie et qui a sorti un morceau qui s'appelle Seek and Destroy. Ok. Donc, Skate and Destroy de The Faction, ça va illustrer cet état d'esprit complètement radical et tout à fait punk qui émerge, qui commence à se manifester dans la scène skate. Si on regarde les paroles, alors c'est très adolescent, c'est très punk dans le sens j'emmerde tout le monde, je fais ma propre loi. Et je mets des taquets à tout le monde en passant. Il suffit de lire les paroles tout simplement. Forget the light, skate and destroy. Pass the jogger, skate and destroy. Snap it back, skate and destroy. Kick that bike, skate and destroy. Donc on a oublie le feu rouge, skate and destroy. Dépasse le jogger, frappe-le, tape ce. Frappe le vélo qui passe à côté de toi. Et puis, donc vraiment un côté simplement gratuitement agressif. Et donc, peut-être pour la suite, quelque chose un peu plus réfléchi ou un peu plus punk éventuellement. It's not a cause or political belief, it's something of my thinking. If you agree, it's cool by me, at least I'm not a robot. Donc, c'est pas une croyance politique, c'est quelque chose que. C'est quelque chose de... Ça fait partie de ma pensée. Si ça te plaît, c'est bien. Sinon, si ça te plaît, c'est bien. De toute façon, moi, je suis pas un robot. Dictatorship of people's mind is not what I strive for. Donc, je refuse la dictature des esprits, etc. Donc, on a voilà, à la fois ce côté provocateur, violent, et en même temps, une petite... réflexion, même si elle reste minime, on va pas se mentir, sur peut-être l'état de la société ou sur comment les gens sont. Voilà, finalement, dans cette chanson de The Faction, Skate and Destroy, le skater s'émancipe peut-être, essaye d'être libre, de ne pas être comme les autres, et on a ce côté à la fois excessif et marginal qui s'exprime dans ce morceau. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les décennies qui arrivent, justement, dans les années 80 et 90, où le skate va vraiment exploser et revendiquer, afficher un état d'esprit qui est bien loin du simple jouet pour enfants. Voilà, donc on s'était quitté en 1983 avec ce morceau de The Faction, et donc on va continuer notre chronologie pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc on parlait de Thrasher Magazine que juste avant, et en plus d'être un magazine, il se trouve que Thrasher va sortir des compilations Skate Rock. Voilà. Donc on va y retrouver des groupes plutôt énervés, mine de rien, pour l'époque, des groupes comme TSOL, The Sound of Liberty, c'est ça leur nom, un groupe de punk qui a parfois une petite tendance un peu, pas new wave, mais voilà, qui va chercher un petit peu dans ses côtés presque post-punk mêlé à du hardcore, donc il y a des choses pas mal chez TSOL. Corrosion of Conformity aussi, voilà, donc on a... Thrasher qui, bien sûr, on est dans les années 80, donc c'est l'âge d'or pour à la fois le punk un peu plus énervé, le metal, et bien évidemment, c'est quelque chose qui, c'est un état d'esprit, une musique, une radicalité qui colle à cette discipline qui est en pleine ébullition et qui commence à s'extrémiser, puisqu'on va le voir, c'est un autre parallèle qu'on va pouvoir faire avec la musique aussi. On va avoir une extrémisation dans les années 80 et 90, ça tombe bien, dans le côté métal on a bien sûr l'apparition, l'émergence du thrash, du death, du black, donc voilà, ça me permet de continuer ma petite métaphore filée sur la musique et sur le skate, mais mine de rien, c'est des choses qui évoluent, en tout cas de manière parallèle, et qui vont parfois se croiser. Autre moment important dans les années 80, on a le The Bones Brigade Video Show, qui est lancé, donc c'est une VHS, et on va voir que dans les années 80 et 90, les VHS de skate vont avoir une grosse importance à la fois pour la culture skate et aussi pour la musique, puisque voilà, qu'est-ce qu'on met sur une VHS, on met des gars qui vont parce que ce sont je l'ai peu dit, mais c'est souvent un sport de mec encore. Heureusement, au fil des années, c'est quelque chose qui va évoluer, mais globalement, ça reste quand même un sport de garçon, et ça a été marketé comme tel dans les années 70, 80, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a sur une VHS? On a donc des gars, souvent des ados, qui vont montrer qui vont montrer l'étendue de leur talent en skate, leur figure, etc. Souvent, il y a de la musique. Et puis voilà, on essaye de créer une sorte d'ambiance, on donne un état d'esprit, une couleur, une atmosphère à un groupe de skateurs, un crew, voilà. Et donc, les Bones Brigade, ce sont des skateurs de légende, avec notamment un certain Tony Hawk, qui est peut-être le plus connu notamment pour les néophytes, et Ronnie Mullen également. Donc c'est des gens qui skataient ensemble et qui ont, chacun de leur côté, voilà, révolutionné la discipline. Et sur cette VHS, on retrouvait notamment Skate and Destroy, qu'on a écouté plus tôt, de The Faction, qui était rangé ensuite dans la catégorie skatepunk. Et donc on a commencé à parler de skatepunk dès qu'un groupe de punk parlait de cette discipline. Est-ce que musicalement, il y a réellement une... Est-ce que c'est possible de distinguer le skatepunk simplement à l'oreille et sans faire gaffe aux paroles? C'est pas certain, mais voilà, ça nous donne une indication sur les goûts même des skaters, en tout cas de l'époque. On a aussi un autre groupe qui s'appelle Youth Brigade, sur cette même VHS, donc qui est, je le rappelle, vraiment très importante pour l'époque, puisqu'on a vraiment des skaters de référence dessus. Mais aussi, on retrouve du surf rock. Alors, un autre parallèle qu'on peut faire avec la musique d'ailleurs, hein, c'est que... Le surf, donc, qui est l'ancêtre du skate, avait aussi sa propre musique. On a créé du surf rock, alors pour le coup qui est reconnaissable à l'oreille, hein. Vous savez, ces guitares qui sont très aiguës, en tout cas en termes d'égalisation, avec un côté un peu tremblotant. Voilà, c'est ce que vous retrouvez du surf rock sur le morceau iconique qu'on entend dans Pulp Fiction. Voilà, c'est quelque chose qui est inspiré, qui est dérivé du surf rock et de ce genre de sonorité, quoi. Côté musicien, on peut aller regarder ça dans les années 80. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a parlé plutôt de James Hetfield, qui s'amusait à faire du skate, etc. Alors, il me semble qu'on peut retrouver. Moi, je m'étais amusé à chercher. On peut retrouver sur YouTube une vidéo de lui qui skate. Alors, il me semble que c'est difficile à percevoir. Est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Est-ce qu'on le reconnaît? Bon, cette vidéo, elle mérite d'exister. Voilà, c'est éventuellement à chercher et à authentifier. Un autre gros nom côté musique qui aime bien aussi rouler, c'est Ian MacKaye de Minor Threat, qui est, on voit en fait sur les albums de Minor Threat, on le voit avec des photos où il est. Il est avec sa planche, voilà. Il a aussi un petit peu une dégaine de skater globalement. Enfin, il est, on sent qu'il est dedans. Et puis on a aussi en 87, on a Suicidal Tendencies qui sort Possessed to Skate, qui est là clairement un morceau qui traite de ça. Et donc voilà, on a tout ça qui arrive côté musique. Si on pousse un peu plus, fin 90, on a même l'album de Fu Manchu qui s'appelle The Action Is Go, avec sa pochette, pareil, une pochette qui est devenue iconique, je pense, notamment pour cette photo, avec un super, super cliché d'un skater qui fait un R, donc qui en gros passe au-dessus d'une courbe, et se retrouve vraiment complètement dans les airs à tenir son skate, donc à faire un grab, à tenir son skate d'une main, et à être et à, on le cliché le saisit juste avant qu'il retombe justement dans la courbe. Donc c'est une autre petite ref qu'on peut retrouver côté musique. Et donc j'ai parlé d'extrémisation, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les années 80-90. Pourquoi on retrouve ça particulièrement? Puisque le skate va avoir tendance à aller va aller chercher la rue. Comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que les skateurs vont aller de plus en plus vont déserter les skateparks. Parce que déjà, alors j'ai pas, je vous, je me suis pas cher, je me suis pas amusé à chercher des chiffres là-dessus, mais c'était pas forcément évident que des skateparks soient aussi généralisés qu'aujourd'hui. Et donc, il faut bien trouver, soit trouver un endroit où faire du skate, ou alors peut-être même détourner l'usage et un peu extrémiser la discipline. Donc, ça se fait dans la rue. Donc, on va trouver des sets de marche, on va trouver éventuellement une poubelle au-dessus de laquelle on va pouvoir sauter, on va essayer de grinder, donc c'est-à-dire de glisser, de déraper sur une sur un rebord de mur, et donc ce côté-là, le street va c'est un peu la discipline reine peut-être aujourd'hui dans le skate. Ça va apporter un côté extrême, parce que forcément on n'a pas nécessairement le droit de skater dans la rue. Il y a des endroits où c'était interdit. Évidemment, on va skater parfois sur des lieux privés. Donc on a ce côté un petit peu à la fois extrême, dans le sens où les figures vont être de plus en plus impressionnantes. Au début, on va sauter 3 marches. Une fois que ça a été fait, ben il faut faire encore mieux. Donc il va falloir sauter 5 marches, il va falloir en sauter 7, etc. Voilà, on va avoir des choses comme glisser sur des... encore une fois, grinder, glisser sur des rambardes d'escalier. Donc avec tous les risques que ça comporte, évidemment, hein, de se blesser, de se faire mal, d'avoir une voiture qui arrive au mauvais moment, etc. Et donc, toute cette partie-là, ce qu'on appelle le street, donc cette discipline-là, elle va émerger, surtout dans les années 90. Et voilà, c'est autre chose, pour donner mon expérience perso, c'est autre chose que de rouler dans un parc où c'est sécurisé, vous n'avez pas de voiture qui peut arriver à tout moment, vous avez aussi du béton de qualité pour rouler. Là, dans la rue, ben, peu importe, hein, enfin tout dépend, vous pouvez tomber sur des endroits qui sont complètement inhospitaliers, ou ce qu'on trouve aujourd'hui en plus, de plus en plus, ce sont des anti-skate, donc des revêtements qui sont mis spécialement pour éviter que les gens aillent skater dessus, parce que c'est impraticable. Enfin voilà, on a tout ce côté défiance de l'autorité, appropriation de l'espace qui se fait à travers le street, et qui finalement est une... On peut le voir comme du vandalisme, on peut le voir comme une revendication, on peut le voir comme une démarche punk, etc. Donc c'est... à chacun de percevoir la chose. Évidemment, ça peut être vu d'un très mauvais œil pour les gens qui ne sont pas dans la discipline. Ça s'entend, évidemment. Mais voilà, on a ce côté extrémisation, côté illégal, underground aussi, dont on parlera peut-être un peu plus après, qui se manifeste et qui se développe dans cette... Dans ces années-là, quoi. Et enfin, on va pouvoir parler peut-être des années 2000, et en tout cas de la fin des années 90 et des années 2000, et du changement que va apporter notamment Internet, puisqu'évidemment Internet va permettre, va changer beaucoup de choses, comme pour la musique, justement. Avant Internet, on a cet effet de rareté, cette méconnaissance aussi, pour beaucoup de choses. Pour la musique, ça se manifeste comment? C'est avec... on peut acheter que... on n'a qu'une certaine collection de disques et on se les repasse en boucle, etc. Pour le skate, c'est un peu la même chose. On a quelques magazines, on va avoir peut-être quelques VHS chez soi et on va les regarder en boucle, parce qu'on est fan, passionné, on va les connaître par cœur. Et Internet va évidemment changer tout ça. Même pour... Aujourd'hui, pour regarder des vidéos de skate, on n'a pas besoin d'aller chercher une VHS. On trouve tout sur YouTube de manière gratuite. Si avant, vous connaissiez 20-30 skateurs parce que vous aviez vu 3 VHS avec des différents collectifs dedans, aujourd'hui, vous pouvez suivre des milliers sur Instagram, suivre des dizaines de chaînes YouTube consacrées au skate, qui publient des parts, donc les fameuses vidéos qui mettent en valeur un skater en particulier et qui montrent toutes ces figures, etc. Et puis autre chose qui est un rapprochement qu'on peut tout à fait faire avec la musique, c'est notamment le côté tutoriel, apprentissage aussi. Pour apprendre un instrument avant Internet, Il fallait éventuellement prendre des cours de musique, ce qui est pas accessible à tout le monde. Il fallait se la jouer autodidacte, apprendre à l'oreille, etc. Enfin voilà, il y avait sûrement évidemment des partitions, des choses comme ça qui circulaient, mais pour apprendre aujourd'hui un instrument, Internet est un outil qui est incomparable avec ce qui était possible avant. Et donc c'est la même chose pour le skate finalement, parce que on apprenait avant à faire, voilà, on apprenait à faire des figures. Au fur et à mesure, on apprenait à faire le ollie dont on a parlé. Alors, comment est-ce qu'on faisait? Il fallait regarder, il fallait se repasser en boucle une la figure pour peut-être l'analyser, la décomposer. Alors, bien sûr, il y a aussi le bouche à oreille, bien entendu, qui a aussi qui peut être très important quand on apprend un instrument. Voilà, on se donne des conseils, il faut faire ça, ceci, cela. Donc, il y a un côté éducation un peu horizontal, quoi. Finalement, on se refile tous des tuyaux, des conseils pour apprendre. Dans les magazines, ils étaient aussi très importants pour ça. Il y avait aussi des tutos un peu détaillés, mais avec des photos pour savoir comment faire. Faire un ollie, notamment pour préparer cette émission, j'ai écouté un podcast qui a été fait par France Inter, une série de podcasts sur le skate que je vous recommande d'ailleurs et je vous donnerai la référence en fin d'émission. Et donc il y a un moment assez touchant où un skater qui dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui a connu le avant Internet bien entendu, l'époque la grande époque des magazines, etc. Et qui, de manière assez touchante, je trouve, il parle justement des étapes du ollie qui sont détaillées dans un magazine, dans Thrasher, il me semble. Et donc, il explique qu'il y a ce côté, voilà, tâtonnement, on fait un peu avec les moyens du bord pour essayer d'arriver à faire notre figure, etc. Il y a vraiment ce côté. Faire un peu de briques et de broc qui fait qu'il fallait s'accrocher, etc., pour comprendre, pour réussir à faire la figure, pour décoller d'un centimètre, etc. C'est quelque chose qui est toujours vrai, évidemment, dans le skate aujourd'hui. C'est une discipline qui demande beaucoup d'efforts, de patience, de persévérance. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus simple d'apprendre avec, de pouvoir regarder 15-20 vidéos de personnes qui vous expliquent comment faire un ollie et décoller du sol avec votre planche que de regarder 4 photos et de lire un texte inlassablement jusqu'à peut-être comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc il y a ce côté vraiment avant-après, à mon avis, qui est très important pour Internet quoi, qui est vrai aussi côté musique. C'est avant on avait 20 disques et on les connaissait par cœur. Maintenant il y a le streaming, le téléchargement qui permettent plein de choses. Enfin voilà, il y a une explosion des connaissances qui se fait grâce à Internet, qui est évidemment très utile et qui donne un nouveau souffle aussi au genre, qui donne un nouveau souffle que ce soit à la musique, que ce soit au skate. Voilà, donc du coup on a ces années 2000 qui sont très importantes évidemment. Internet va forcément amener des choses comme des phénomènes qui sont aussi vrais côté musique, côté metal, punk, etc. C'est une démocratisation parce que bien entendu on va avoir de plus en plus de gens qui vont avoir accès qui vont être exposés au skate, qui vont être exposés au metal, etc. Et donc cette démocratisation, elle est apportée par plusieurs facteurs. Donc bien sûr Internet, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous pouvez très facilement aller suivre des skaters, etc. Donc ça, bien sûr, ça a de très bons côtés. Ça permet d'éveiller des gens à cette discipline. Moi je trouve que c'est évidemment une très bonne chose. Les derniers JO, en tout cas, ont aussi contribué à une sorte de démocratisation. Ça a pu être vu d'un bon ou d'un mauvais œil, on va voir pourquoi. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et enfin, quelque chose qui est, à mon avis, ce qui est le plus critiquable là-dedans, dans cette démocratisation, malheureusement, c'est l'accaparement de la discipline par le marché, tout simplement, parce que au bout d'un moment, comme toutes les disciplines ou comme tout art un peu underground, ben les multinationales ou les entreprises de manière générale voient toujours le moyen de se faire un billet sur le dos de ce genre de choses. Et donc, malheureusement, on peut voir aujourd'hui des planches Louis Vuitton et j'en passe. Voilà, des choses qui sont impensables, évidemment, pour une culture qui est à la fois plutôt populaire, quand même, qui émerge de la rue et qui se fait voilà, récupérer, ou en tout cas, disons qu'il y a. Je dirais pas que la culture skate entière se fait récupérer, mais il y a des tentatives en tout cas du marché de faire de l'argent avec ça. On peut regarder aussi, on peut voir mine de rien, enfin que pas mal de dans la publicité aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. L'image du, enfin le skate est utilisé pour vendre plein d'autres choses. Alors je l'ai remarqué. Peut-être parce que j'y prête attention, peut-être que vous, ça vous a jamais frappé, mais je sais pas. Depuis que j'y prête attention, je me rends compte que il y a de plus en plus cette image du skate pour véhiculer un esprit cool, jeune, indépendant, machin. Voilà, il y a tout ce côté-là qui est très facilement utilisé pour vendre un baril de lessive ou n'importe quoi. Enfin bref. Il y a tout ce côté-là mercantile un peu qui contribue peut-être, ou qui est peut-être le signe, peut-être plus le symptôme d'une démocratisation de la discipline. Et donc la réaction par rapport à ça, c'est finalement comme pour le métal ou le punk, hein, qui sont des cultures plutôt underground à la base. On peut se poser la question, est-ce qu'on valide ou non cette démocratisation? Alors moi je répondrai cette question de manière plutôt favorable. Évidemment, moi je suis c'est pas moi qui vais donner des leçons en ayant commencé il y a 2 ans. Évidemment que j'encourage toute personne qui serait intéressée qui a envie de monter sur une planche, évidemment il faut le faire, même si vous avez vu ça dans une pub, je m'en fous, faites-le surtout, et lancez-vous en respectant bien entendu disons un certain nombre de codes ou l'éthique qui peut y avoir derrière cette discipline, mais ça on va y revenir. Mais c'est un peu comme la musique et comme le métal, hein. Y a eu une démocratisation, je pense, par internet aussi de la musique. Là-dessus des néophytes sont arrivés, et je peux dire entre guillemets que j'en fais partie, puisque moi quand j'étais ado, j'ai découvert à la fois par la radio et par internet aussi un certain nombre de groupes que j'écoutais. Et je peux pas jeter la pierre à des gens de découvrir, surtout aujourd'hui, de découvrir le métal via internet. Voilà. Mais à mon avis, cette histoire de gatekeeping, de garder farouchement un genre musical ou une discipline sportive, artistique, pour un certain nombre, un petit cercle d'initiés, à mon avis, c'est pas quelque chose de sain. À mon avis, ça sert vraiment pas à grand chose. C'est surtout gonfler son ego que de se dire je suis le seul à écouter tel groupe, ou le skate est réservé à telle ou telle personne. Voilà, c'est en tout cas mon point de vue là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que forcément ce côté démocratisation on peut entraîner des réactions un peu épidermiques, et donc on peut avoir, si on a des poseurs dans le métal, sachez qu'il y en a aussi dans le skate. En tout cas, il y a des gens qui se font traiter de poseurs parce qu'ils sont pas suffisamment bons, ou ils n'ont pas commencé à rouler il y a 10 ans, donc, on peut les traiter de poseurs pour X raisons. Mais bref, heureusement c'est une minorité. C'est quelque chose que j'ai jamais connu, en tout cas de manière j'ai jamais été confronté à ça, heureusement, mais c'est un état d'esprit qui existe évidemment avec toute chose qui est gardée farouchement par un petit cercle d'initiés qui se croit au-dessus des autres, on va dire. Voilà, quelques petites choses pour terminer sur cette chronologie, et puis après on va peut-être s'intéresser, on va prendre un peu de hauteur et puis essayer de faire des ponts entre la musique et le skate. J'ai parlé des années 2000, j'ai parlé d'internet, mais quelque chose que je n'ai pas évoqué volontairement, c'est l'importance des jeux vidéo qui ont aussi, mine de rien, aidé à démocratiser le skate, qui ont donné sûrement envie à plein d'ados de monter sur une planche à un moment ou un autre. Et évidemment, un de ces jeux vidéo les plus iconiques, c'est Tony Hawk Pro Skater, qui est sorti en 1999 sur, sur PlayStation et qui forcément a donné envie à plein de gens de s'y mettre. Et quelque chose qui est important pour la musique, évidemment, c'est un jeu vidéo qui a converti des gens au skate et aussi au punk et au metal, puisque la BO est quand même pas dégueulasse, on va pas se mentir. Y a des choses qui sont. Il y a des choses qui sont tout à fait recommandables là-dedans. Du Primus, on retrouve du Suicidal Tendencies. Il y a Unsane aussi qui est présent sur cette BO. Des choses un peu plus ska punk. Bon, pour moi, c'est à petite dose, mais ce morceau en tout cas passe bien. C'est un morceau de Goldfinger. Voilà, donc on a une bande originale qui est quand même très axée punk, assez punk quand même. Ça a contribué à éveiller bien sûr des enfants, des ados au punk, et ça c'est quand même quelque chose qu'on peut reconnaître à Tony Hawk Pro Skater. Et donc on va s'écouter un petit morceau, un petit extrait peut-être de Police Truck des Dead Kennedys, qui morceau qui a connu donc une deuxième jeunesse dans les années 2000 grâce à ce fameux jeu sorti sur PlayStation. We're gonna drive one screaming off the street and ride. Voilà, donc on a terminé cette chronologie, disons, du skate que j'essaie de rendre assez complète. Donc j'espère que j'ai pas été trop chiant avec cette histoire de chronologie, notamment si vous êtes moyennement intéressé par le sujet. J'espère que c'était pas trop long. J'ai essayé de faire des liens, bien sûr, avec la musique. Puisqu'il y a quand même pas mal de choses en commun. Et donc, pour terminer, ou en tout cas en deuxième partie d'émission, on va peut-être faire le lien entre les deux cultures véritablement, pas sur un aspect chronologique, mais vraiment essayer de voir qu'est-ce qui fait que cette musique et cette discipline sont autant liées. Peut-être parler, disons d'abord d'esthétique et puis ensuite d'état d'esprit. Je pense que c'est comme ça qu'on peut aborder la chose. En termes d'esthétique, déjà, le métal est évidemment et le punk, mais là, je pense quand même plus particulièrement au métal, même si on en a peu écouté. Et si, en termes de musique, c'est quand même le punk qui est plutôt dominant dans le skate. L'esthétique des marques, en tout cas, par exemple, et le visuel est quelque chose de très important. Donc, pour le métal, évidemment, on pense aux pochettes, aux illustrations qui font parfois presque 50% du charme d'une œuvre. C'est un peu la même chose pour le skate et notamment pour les decks, les planches de skate. Vous aurez remarqué qu'il y a systématiquement une illustration. Alors ça peut être quelque chose de très sobre, parfois c'est simplement le logo de la marque en question, mais vous avez de réelles esthétiques pour certaines marques qui sont très inspirées ou qui vont chercher dans le même terreau que le punk et le metal. Un exemple de marque qui s'inspire clairement du metal, c'est la marque Creature. Et donc esthétiquement, ils ont un côté quand même assez leurs visuels sont quand même assez proches du métal. Ils ont un logo qui est vert fluo, façon radioactif, une typo un peu coulante. Enfin voilà, c'est puis leur vidéo, puisqu'on va parler de aujourd'hui les marques, chaque marque de skate ou de parfois de roues, de roulements, de trucks, etc. ont des chaînes, ils ont tous des chaînes YouTube et ils sortent. Ils sponsorisent un certain nombre de skateurs, donc qui peuvent ainsi vivre de leur art, de leur passion. Chaque part, donc chaque vidéo dans laquelle il y a voilà un ou plusieurs skateurs qui montrent l'étendue de leur connaissance, de leurs tricks, etc. Il y aura nécessairement de la musique. Creature, par exemple, a une skatepark qui s'appelle Black Metal. Une autre marque qui s'appelle Toy Machine qui a une part qui s'appelle Heavy Metal. Donc voilà, il y a quand même des choses, des clins d'œil assez évidents. Et bien entendu, comme je disais, la BO, les musiques choisies sont quand même représentatives d'un état d'esprit, d'un d'une esthétique globale, quoi, finalement. Également, donc, dans tout ce qui est, tout ce qui est esthétique, on l'a dit, il y a une vraie tendance à l'extrémisation qui a lieu dans la discipline, hein, au fur et à mesure de son histoire. Forcément, ça amène à des choses encore plus risquées, donc plus d'adrénaline, etc. Donc il y a vraiment ce côté, cette course à l'armement dans le skate, comme on l'a connu dans le métal. Et donc c'est un peu intéressant de suivre aussi cette histoire de l'extrémisation. J'y pense aussi une tendance à la technicité qui se fait petit à petit. Il y a des skateurs qui sont reconnus pour être particulièrement techniques, pour arriver à enchaîner des choses qui sont compliquées. Tout comme on a la même chose tout simplement en musique, on a le death technique, on a le prog, voilà, on a des skateurs qui sont prog à leur façon, quoi. Bien entendu, dans les points communs, on en a un peu parlé avec le street, il y a ce côté underground, illégal, non reconnu en tout cas du skate. En fait, c'est quelque chose qui vient de la rue à la base. Un peu comme le punk, hein, qui vient plutôt, voilà, qui est une culture populaire, qui se veut non conventionnelle. Et donc on a ce côté amateur qui est très présent dans le skate, et parmi les gens qui sont peut-être un peu plus, les plus conservateurs, mais je dis ça sans animosité, sans jugement en tout cas, parmi les gens qui sont peut-être les plus conservateurs dans la discipline, c'est ceux ou celles qui veulent quelque chose qui reste... très proche d'un esprit punk, finalement. Le fait que les Jeux Olympiques aient fait du skate une discipline olympique, ça pose un certain nombre de problèmes, puisque jusque-là, le skate, c'est, on peut le considérer comme, on pouvait le considérer comme un art. C'est-à-dire que c'est... on fait des figures, on essaye de développer un style, on fait une sorte de... On crée des vidéos avec une musique, une ambiance, etc. On essaye de... Enfin voilà, moi je vois ça en tout cas en tant que pratiquant et en tant que spectateur aussi. Moi je vois ça c'est presque comme de la danse en fait. On est sur un entre-deux entre quelque chose qui est artistique et quelque chose qui est sportif en même temps, qui nécessite une condition physique, ou en tout cas qui va mettre le corps à l'épreuve, forcément. Et donc, c'est ce côté, en tout cas non sportif, non comptabilisé, qui était présent, en tout cas pendant une bonne partie de l'histoire du skate, a tendance à évoluer dernièrement, puisque les Jeux Olympiques impliquent de mettre une note, par exemple, pour une figure. Alors, c'est quelque chose qui existait peut-être déjà avec les compétitions qui existaient avant, mais on peut très bien prendre pour partie le fait que la compétition n'a rien à faire dans le skate. On n'est pas sur il n'y a pas de nécessité à chiffrer telle ou telle chose. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait chiffrer, mettre une note à telle figure plutôt qu'une autre? Enfin voilà, c'est plein de débats qui ont eu lieu avec l'arrivée du skate dans les JO, et qui forcément le sortent en tout cas de son côté underground, son côté illégal, sulfureux, etc. Et donc forcément ça ne plaît pas à un certain nombre de skateurs, et c'est un point de vue que j'entends, bien entendu, et ça remet en question en tout cas une certaine horizontalité qu'on peut retrouver par exemple dans le punk. C'est un peu une sorte de principe qu'on peut retrouver dans le skate aussi, avec cette histoire de compétition chiffrée, de qui serait le meilleur, de qui serait le numéro 1 de la discipline, etc., qui aurait la médaille d'or. Enfin, il y a un petit peu un mouvement de rejet par rapport à ça, qui est tout à fait entendable. Pour terminer sur cette partie esthétique, on peut parler du côté un peu plus frontal, un peu plus bête du métal et du punk et du skate. C'est le côté défouloir, bien entendu. Il y a un côté assez puissant, c'est des adjectifs qui me viendraient, quoi. Le côté puissant, le côté violent aussi, entre guillemets. Il y a un côté intense, bien sûr, dans la musique et dans cette discipline-là. Donc, c'est évident que rapprocher les deux fonctionne particulièrement. Si vous allez rouler avec du obituary dans les oreilles, c'est sûr que votre session se passera très bien. Et maintenant on peut parler peut-être un peu de l'état d'esprit pour terminer, qui existe dans les deux dans les deux mondes. Peut-être pour commencer le côté jeunesse et adolescence de la chose, puisque le metal, et le punk et le skate, avant tout, ce sont des choses qui ont été créées par des jeunes, par des ados, et bien entendu, ce côté jeune, insouciant, un peu je m'en foutiste, etc., il est cultivé et il persiste dans pourtant des disciplines qui ont plus de 50 ans d'âge aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'assez rafraîchissant, assez revitalisant, on va dire, dans la musique et à la fois dans... autre chose, peut-être on en parlait plus tôt, c'était le côté DIY. Donc on pense au punk, évidemment. Le skate, par exemple, va facilement s'approprier un espace pour le transformer, pour en faire un autre usage. C'est un peu la même chose avec le punk qui va jouer dans des squats, par exemple. Dans des lieux peut-être un peu qui sont pas tout à fait faits pour être des salles de concert, on a un peu la même chose dans le skate qui va s'approprier, qui va s'implanter dans un espace. Dans le skate, quelque chose qui est assez qui existe, c'est des spots DIY. C'est par exemple des gens qui arrivent sur un spot qu'ils trouvent intéressant et ils l'adaptent à ce qu'ils veulent faire. Alors ça peut être relever une plaque d'égout, par exemple, pour en faire un tremplin, et ça peut aller jusqu'à couler du béton pour faire une sorte de rampe ou de rebord sur lequel se mettre, et puis du coup adapter, transformer le paysage urbain, le façonner de sorte à ce que tout devienne skatable. Donc c'est une appropriation et en cela vraiment quelque chose de, qu'en cela il y a un côté reprise de pouvoir qu'on peut retrouver aussi dans le punk, tout à fait. Bien entendu, tout ça va avec un côté rébellion, marge, évidemment, hein, c'est pour ça que on en parlait plus tôt, se faire récupérer entre guillemets par les JO, ou se faire récupérer par des grandes marques, ou voir la publicité utiliser l'image du skate, etc. Ça fait un peu mal, tout comme ça fait mal de voir le punk ou le metal et détourner de son usage, évidemment, notamment par le marché, bien sûr. Voir Iggy Pop qui fait la pub pour les Galeries Lafayette, par exemple, c'est pas génial. Mais du coup, oui, forcément, il y a ce côté, ça entretient ce côté marginal, rebelle, etc. Alors parfois rebelle aussi, on parlait du côté un peu petit con, il y a évidemment de ça aussi dans le skate, et évidemment de ça dans le punk aussi. Il y a un côté provoque qui est assumé et qu'on peut valider ou non, duquel on peut se départir aussi avec l'âge, bien entendu. Autre chose, évidemment, c'est la créativité, puisque là, quelque chose qui est hyper important, si on veut repousser des limites, que ce soit en musique, que ce soit en skate, il va falloir soit tenter des choses plus extrêmes, ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher, ce qui peut faire mal, parfois, et puis être créatif il y a 20 ans, bon, c'était certainement pas facile, être créatif maintenant, c'est encore plus dur, forcément. Aller inventer un nouveau tricks de skate aujourd'hui, ça me semble quasi impossible, enfin en tout cas de ce que j'en connais. On a l'impression que tout a été fait, c'est un peu la remarque qu'on se fait en musique aussi. On se dit que dans le métal, on a fait le tour, on a tout fait, on a fait du lent, du rapide, qui crie, qui chante, etc. Dans le skate, il y a un peu ce sentiment, en tout cas moi j'ai un peu c'est quelque chose que j'ai un peu en tête. On a l'impression que tout a été fait, et en même temps, il existe, le nombre de spots, il est grand comme la terre. Le nombre de tricks, il est incroyable aussi. Mettre tel tricks avec sur tel spot, ça décuple évidemment les possibilités. Bien entendu, il y a plein de choses à créer, il y a plein de choses qui se font encore aujourd'hui, qui sont intéressantes, même si la marge de progression, la marge de créativité, de création, sans doute qu'on l'a pas mal rogné au fur et à mesure du temps, et un peu comme en musique finalement, quoi. Et enfin, pour terminer, peut-être quelque chose qui est, en tout cas, que j'ai constaté et qui est peut-être souhaitable, quelque chose qu'on doit travailler en tout cas dans les deux disciplines, que ce soit dans le skate ou la musique. C'est une forme d'entraide, en tout cas moi je l'ai rencontré dans le skate très vite, c'est quelque chose qui est assez vrai. Je parlais tout à l'heure de l'importance de la transmission, et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le dans le skate, dans le punk, dans le metal, il y a toujours des gens qui vont vous aider, qui vont vous filer un coup de main pour un tricks, qui vont vous recommander un album qui peut vous plaire, etc. Donc c'est vraiment ce côté transmission, passionné et tout, qui est très, très intéressant, très appréciable. Un côté aussi code de conduite, c'est ce qu'on aimerait voir de plus en plus, bien évidemment. Il y a un côté communautaire qui est, avec les bons côtés de la chose, je trouve, qui est appréciable. Voilà, deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées avant et qui sont dans le même skatepark et vont potentiellement au moins se dire bonjour et puis peut-être sympathiser, s'entraider, s'encourager aussi. Il y a une vraie culture de l'encouragement, je trouve, dans le skate. Si vous avez vu les JO, par exemple... Les derniers JO, si vous avez regardé, les athlètes se félicitent entre eux constamment, même s'ils sont concurrents. Dans les faits, on sent qu'il y a quand même cet esprit de camaraderie, d'entraide, de motivation, parce qu'en fait, il y a un côté vraiment jouissif à voir quelqu'un réussir. Et c'est en cela vraiment une discipline hyper positive, je trouve. Tout comme, tout comme en art, a priori, il n'y a pas vraiment de compétition. On a envie que les groupes qu'on aime soient les meilleurs possibles. On n'est pas en train de se dire, enfin si, malheureusement on est en train de se dire tel groupe est meilleur qu'un autre, mais il y a une culture aussi de l'encouragement entre guillemets, avec un concert on applaudit, enfin voilà, on chante les paroles, etc. Donc il y a vraiment ce côté émulation et communautaire aussi qui existe dans la musique, même si les progrès sont évidemment possible. Et là, je parle des deux mondes encore une fois. Dans le skate, malheureusement, ça a été très longtemps un sport de mec. C'est quelque chose qui tend à bouger. Il y a des vraies initiatives qui sont prises aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui proposent des sessions uniquement pour les filles. Il y a un encouragement à ce que... est-ce que tout le monde puisse monter sur une planche si il ou elle en a envie. Il y a un travail bien sûr sur la transidentité, l'homophobie, toutes ces questions-là qui traversent un peu notre époque. Je trouve, de ce que je vois en tout cas, le monde du skate a l'air d'évoluer dans la bonne direction et d'être de plus en plus d'être vigilant en tout cas sur ces sujets-là. Quelque chose qu'on peut en tout cas retrouver potentiellement dans le punk aussi, qu'on aimerait retrouver peut-être davantage dans le métal. Et donc il faut, bien sûr à chacun de veiller à ce que ce genre de choses puissent se faire, à ce que les comportements nuisibles soient évidemment sanctionnés, ou au moins qu'ils soient... si on parle d'esprit communautaire, dans ce cas-là, qu'on fasse un esprit communautaire positif et que l'on intervienne en cas de dérive, bien entendu. Malheureusement, après beaucoup de gros festivals métal, on a des malheureusement de tristes témoignages qui arrivent à chaque fois. Donc, bien entendu, que cette histoire d'inclusivité, c'est pas simplement du vent, c'est bien sûr être vigilant et puis changer un discours au quotidien qui a été dans le métal comme dans le skate, un discours qui a été machiste, qui a été bien entendu excluant pour un certain nombre de personnes. Et ça ne pourrait être que mieux, évidemment, si chacun fait sa part du travail là-dedans. On a parlé de, bien sûr, dans cette deuxième partie, cette deuxième et dernière partie, on a parlé du côté défouloir qui existait dans la musique et dans le skate. On a parlé du côté adolescent, du côté rébellion, marge, marginal, etc. Alors c'est évidemment l'occasion pour moi de vous recommander une série de vidéos qui s'appelle My War, qui est sortie sur le... qui est publié par Thrasher, donc le magazine dont on parlait plus tôt, qui aujourd'hui a une chaîne YouTube qui publie beaucoup. Et donc My War, donc si vous connaissez bien votre hardcore 80, vous aurez reconnu évidemment le clin d'œil à Black Flag. Et donc My War, c'est une série de vidéos qui montre la détermination, la hargne, presque le masochisme de certains skateurs qui sont sur un spot, qui veulent rentrer une figure et qui vont tout faire pour y arriver. Donc c'est une vidéo dans laquelle on voit l'échec et c'est quelque chose qui est très intéressant à voir justement. Ça montre que voilà, on réussit pas tout le temps, mais qu'à force de détermination, qu'à force de persévérance, ces skateurs et skateuses arrivent à leur fin. Et voilà, c'est très beau à voir le côté. Voilà, je parlais de culture de l'encouragement, etc. Avant. Voilà, si vous regardez une de ces vidéos, c'est quelque chose d'extrêmement jouissif de voir la personne réussir à la fin. Et c'est à peu près la même sensation qu'on a quand on réussit soi-même un tricks, quoi. Et donc, c'est des skateurs qui sont sur un spot particulièrement difficile. Une des vidéos les plus connues, c'est un gars qui est sur le toit d'un car wash en pente, qui veut mettre une figure et ensuite arriver sur une route sur laquelle il y a énormément de voitures qui passent. Voilà, c'est évidemment quelque chose de super impressionnant, qui est hyper intéressant à regarder, bien entendu, et que je vous recommande très fortement si jamais vous ne connaissez pas trop le monde du skate. Vous verrez à quel point on peut être fêlé de métal, de punk, etc. On peut l'être tout autant pour le skate, ça c'est sûr. Évidemment, Thrasher a choisi ce morceau de Black Flag pour illustrer cette série de vidéos. Ils ont choisi My War, ce qui n'est pas étonnant puisque évidemment le skate c'est avant tout une guerre. C'est une guerre contre soi-même. On écoute My War de Black Flag. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère aussi que ça vous aura donné envie, bien entendu, de monter sur un skate si jamais vous ne l'avez jamais fait, de reprendre le skate si jamais vous en avez fait plus jeune. Voilà, vraiment, vraiment, qui que vous soyez, essayez, allez vous intéresser à cette discipline qui est vraiment incroyable, fantastique. Il y a vraiment le côté addictif qu'on peut retrouver dans le métal, dans le punk. Si vous aimez ces musiques, c'est que vous êtes potentiellement passionné, de nature assez passionné. Donc, honnêtement, je vous encourage à aller, bien sûr, à essayer. Vous n'allez pas y arriver dès le début, ça c'est certain. Mais vous verrez que la récompense, une fois qu'on a réussi, ne serait-ce qu'à rouler sur un skate sur 100 mètres, il y a très peu de choses qui sont aussi incroyables que ça. Vous allez vous développer en fait une capacité à dompter, à surpasser, à vous dépasser, que vous connaissez si vous écoutez du métal notamment. Si vous êtes allé jusqu'au métal extrême, vous avez senti ces paliers où vous trouviez difficile d'écouter telle chose, puis à force d'y revenir, on y est arrivé, et puis finalement on l'apprécie. Et ben voilà, c'est exactement la même chose que vous pouvez retrouver dans le skate. Et c'est vraiment incroyable. Donc bien entendu, je compte sur vous pour me transmettre vos meilleurs exploits en skate d'ici quelques temps après ce podcast. Voilà. Et si d'ailleurs vous êtes vous-même skateur ou skateuse, je serais intéressé d'avoir vos retours. Est-ce qu'on a le même sentiment, les mêmes sensations sur la musique et le skate? Est-ce que je pars pas trop dans un délire perso ou est-ce qu'on est d'accord qu'il y a de réels ponts entre les deux? Voilà, là-dessus, je vous recommande deux petites choses. Bien entendu, encore une fois, la série de vidéos My War qui est disponible sur la chaîne YouTube de Thrasher. Je vous en mettrai un extrait sûrement dans la description la description YouTube. Et deuxième chose, le podcast de France Inter qui m'a aidé à préparer cette émission. Ce sont quatre podcasts qui reviennent sur l'histoire du skate et notamment un épisode qui revient aussi sur la place des filles. Mais aussi la place de la communauté LGBT dans le skate. Donc c'est très intéressant pour la partie inclusivité dont je parlais sur la fin. Voilà, toute la série est vraiment passionnante. Vous entendrez des gens passionnés. C'est ça qu'on aime. Voilà, j'espère que ça vous a plu, même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par le sujet. J'espère que je vous aurai donné envie, en tout cas, d'en savoir un peu plus. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur un sujet complètement différent. Voilà, et puis au plaisir de vous croiser peut-être au détour d'une session dans un skatepark, un de ces jours, ce serait un plaisir. Allez, là-dessus, je vous dis à plus, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Salut !